Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. À la technique, comme toujours, mon vieux complice Léo et votre serviteur Andrés Atenza. Comment renforcer l'accès aux soins pour toutes les personnes en situation de handicap? Pour en parler, je reçois aujourd'hui M. Alain Scudellaro. Bonjour M. Scudellaro, bienvenue.
Bonjour M. Atenza.
Vous êtes le chargé de mission handicap de l'association Coactis Santé et nous allons passer une heure à décrypter toutes les actions que vous menez dans la région Occitanie, mission handicap, renforcer l'accès aux soins pour tous. Et j'imagine que quand vous avez démarré cette activité, il me semble, dans les années 2011-2012, création de cette association, vous aviez identifié beaucoup de difficultés pour les personnes en situation de handicap, tout type de handicap, physique, psychique, aller chez le médecin, aller à l'hôpital, aller dans une clinique ou autre, ça devait être assez complexe. Et peut-être, y compris les médecins, les soignants, ne savent pas comment faire pour accueillir ces personnes en situation de handicap, c'est aussi cela.
Vous avez bien résumé, effectivement. Je pense que le décor est bien planté de cette manière-là. Comme vous l'avez dit, ça paraît une gageure, mais aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès aux soins. Alors, on l'entend, hein, on le sait, pour tout un chacun, c'est déjà compliqué d'avoir un médecin traitant, de pouvoir trouver des spécialistes, notamment en Occitanie. Que ce soit en zone rurale ou en zone de montagne, mais même en zone urbaine, on se rend compte de ces difficultés. Donc imaginez pour une personne vivant avec un handicap, en situation de handicap, dans une zone de désertification médicale, eh ben c'est puissance 10 les difficultés que rencontrent aujourd'hui ces personnes-là pour pouvoir avoir accès aux soins.
J'ai souvenir d'avoir rencontré un dentiste. Et il dit, j'ai reçu un enfant avec des troubles de comportement assez forts, de type TSA. Il me dit, comment voulez-vous que je puisse soigner les dents d'un jeune autiste? Au cours de ma formation, je n'ai jamais eu une heure de cours, d'information pour pouvoir appréhender cela. Le soin était quasiment impossible, quoi.
C'est ça.
Et j'imagine que vous voyez avec des soignants ce type.
Et ça continue aujourd'hui.
Et ça continue
encore,
malheureusement aujourd'hui.
Malheureusement. Et on s'en rend compte avec la mise en place, par exemple, dans le Gers du bus dentaire qui se déplace dans les zones de désertification médicale et notamment en pénurie de dentistes, où nous avons avec la faculté de médecine de Toulouse des jeunes étudiants donc qui viennent faire les soins des personnes les plus éloignées et qui n'ont pas de dentiste aujourd'hui. Si vous rajoutez à cela la notion du handicap, eh ben vous avez ces jeunes médecins qui, déjà, c'est compliqué de venir faire ces
totalement
soins.
Totalement démunis.
Complètement démunis. Et donc, c'est le premier frein. Effectivement, celui-là, c'est le premier frein. Le manque de support facile à comprendre pour expliquer les soins et prendre soin de sa santé. Donc ça, c'est vraiment le premier frein que l'on a rencontré.
Donc, Coactis, alors j'imagine que vous avez voulu faire un jeu de mots comme co-acteur de sa santé, c'est peut-être ça?
C'est complètement ça.
C'est ce que vous avez peut-être. Et alors, comment naît cette association? Quelles sont les personnes qui ont compris assez tôt, qui ont eu cette initiative ou la lucidité pour dire, voilà, il faut quand même créer quelque chose?
Donc, cette association, comme vous l'avez dit tout à l'heure, agit depuis 2010 pour améliorer donc l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Concrètement, l'association elle propose des solutions gratuites, co-construites par des experts scientifiques. Notre force, c'est notre, on y reviendra peut-être, notre comité scientifique qui est composé de 200 experts qui sont d'horizons divers, que ce soit des médecins, que ce soit tout type de professionnels du soin, mais également des associations, des aidants, des soignants et des usagers, parce que l'intérêt, c'est effectivement que tout le monde puisse éprouver les documents et les outils que nous produisons. L'important, c'est effectivement que tous ces documents qui aujourd'hui sont mis à disposition des professionnels de santé sont gratuits. Donc on y reviendra sûrement avec nos partenaires. Voilà. Et accessible, voilà, le plus large possible, avec toutes les nouvelles technologies, hein, dans le facile à comprendre, dans le facile à lire, en langue des signes également. Et demain, avec des nouvelles technologies liées à l'IA, à l'intelligence artificielle, nous allons aussi développer ces outils-là pour que, là encore, le plus grand nombre puisse en bénéficier.
Alors, accéder... aux soins de façon, on peut dire, tout à fait convenable, hein, pour ces personnes. Alors, vous citez dans votre association, et vous faites référence, me semble-t-il, régulièrement à la charte de Pascal Jacob. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui est ce monsieur Pascal Jacob et cette charte parce que, encore une fois, peut-être critique, mais vous allez répondre à cette critique. C'est peut-être assez facile d'écrire des chartes, c'est un peu du droit mou, comme on dit. On fabrique du droit mou, mais quelles sont les obligations? Alors cette charte, elle sert à quoi? Est-ce qu'elle s'applique réellement? Est-ce que les acteurs du soin sont prêts à mettre en œuvre les bonnes recommandations de la charte Jacob?
Je pense qu'il y a une réelle volonté derrière. Mais effectivement, après, la mise en œuvre peut des fois rencontrer quelques difficultés. La charte Romain Jacob, elle est née de la volonté des personnes qui vivent avec un handicap d'améliorer justement la question de l'accès aux soins. Ça, c'est vraiment la base de la charte Romain Jacob. Elle a été rédigée en 2014 déjà, c'est-à-dire qu'on va fêter ses 10 ans à travers 12 grands principes, et elle s'impose aujourd'hui comme véritable guide éthique de l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. C'est autour de l'association Handidactique et de Pascal Jacob, son auteur, hein, qui avait rédigé le fameux rapport Pascal Jacob, qui a ensuite débouché sur la charte. Et Pascal Jacob était le papa de deux enfants porteurs de handicap, dont Romain, avec qui il a coécrit la charte qui est aujourd'hui, qui fait
handicap,
référence.
Handicap, si j'ai bonne souvenance, handicap assez sévère.
C'est très, très lourd.
C'est très lourd, quoi. Voilà. Et donc là, c'est vraiment un acte d'une grande humanité, et si j'ai souvenir également, il me semble que Monsieur Jacob avait arrêté son travail pour s'occuper à plein temps, exclusivement de ses enfants.
Tout à fait.
On voyait bien qu'il y avait des difficultés, que les institutions, les associations, malgré tout le travail, ne pouvaient pas répondre aux exigences.
Et aujourd'hui, il parcourt,
le monde. Avec la bonne parole.
Avec la bonne parole, parce que l'ADN de la charte Romain Jacob, donc créée par l'association Handidactique, qu'il a lui-même fondée, donc, est un guide vraiment éthique de l'accès aux soins réalisé par et pour les personnes vivant avec un handicap. Ça, c'est important. Et vous le voyez dans mon propos, Pascal Jacob y tient beaucoup. On parle, nous, beaucoup dans notre discours de personnes en situation de handicap, et lui veut faire vraiment porter l'accent sur les personnes vivant avec un handicap.
Vivant. C'est tout différent. La sémantique dit quand même des choses. Hein.
Oui.
On vit avec son handicap. Il n'y a pas que la situation. Et vivre, c'est vivre le mieux possible, quoi.
Il y a 12 points, hein, qui ressortent de la charte. Valoriser l'image de soi. Donc ça, c'est le premier point. Valoriser l'accompagnement. Exprimer les besoins, la santé dans le parcours de vie, une culture pro-commune, coordonner un parcours de santé, accéder aux soins et à la prévention, accéder aux soins ambulatoires, adapter bien sûr les hospitalisations, mieux répondre aux urgences, mieux informer et communiquer, et enfin appliquer et évaluer la charte. Donc voilà un peu les 12 points dès lors que l'on signe la charte Romain Jacob dans lequel on s'engage. Et effectivement, il y a des comités de la charte par département qui sont mis en place pour dynamiser, pour la faire vivre. Et dans ma mission, il y a cette partie-là d'essayer aussi de faire vivre ces comités de la charte dans chacun de nos départements. Alors, en Occitanie.
Vous, vous, vous vous promenez dans toute l'Occitanie. Alors, mais l'Occitanie, c'est quand même 13 départements. Alors, quand je dis vous vous promenez, non, vous êtes en mission. Hein. C'est pas qu'une promenade. Vous intervenez à la demande de qui? C'est-à-dire, on vous téléphone, vous menez vous-même parfois des actions. Comment ça se passe, les actions autour d'une année calendaire, d'une année universitaire, pourrait-on dire, de travail?
Il est important de rappeler avant tout que c'est l'Agence régionale de santé d'Occitanie, donc qui finance l'ensemble des actions. Effectivement, cette action-là en particulier. Et donc, je suis amené à rencontrer chaque délégation départementale qui a son propre fonctionnement, hein, avec une autonomie la plus large possible. Et ainsi, d'un département à l'autre, les actions elles vont se décliner différemment. C'est-à-dire que je vais pouvoir intervenir auprès de maisons santé pluridisciplinaires, par exemple, comme d'établissements sanitaires, à la demande des référents handicap, qui viennent d'être nommés dans le cadre de la loi de 2023. Mais ça peut être aussi à la demande de partenaires, d'associations du médico-social, par exemple, de la CAF, dans certains moyens.
La caisse d'allocation familiale.
La caisse d'allocation familiale, de l'éducation nationale aussi. Toutes les personnes, en fait, qui, au quotidien, ont à se poser la question de l'accueil et de l'accompagnement aux soins des personnes en situation de handicap.
Et alors, vous faites des actions de formation ou des actions simplement de formation en particulier sur un secteur ou des actions d'information des outils, où vous menez peut-être les deux?
Alors, un peu des deux, effectivement. D'abord, c'est une vulgarisation de nos outils, les outils Santé BD et Handi Connect, dont on reparlera, bien entendu. Et puis, les formations que nous dispensons aussi, puisque nous offrons une banque d'expérience, puisque nous l'hébergeons, cette banque d'expérience, à la demande du ministère des Solidarités. Et donc, nous avons des webinaires sur des thématiques qui concernent les professionnels du soin ou qui vont concerner plus particulièrement les usagers. Tout dépendra du type de cible que l'on aura visée.
Donc, cette banque d'expérience, elle est accessible. Oui. C'est le numérique. Il suffit de taper coactis-santé.fr/banque-expérience, on arrive.
C'est ça.
C'est assez ergonomique, n'importe quel professionnel, n'importe quelle famille, papa, maman, grand-mère, grand-père peuvent...
Tout est en accès en FALC, en facile à lire et à comprendre, de manière aussi à ce que le plus grand nombre puisse y avoir accès. L'intérêt, il est là. Et nous sommes à plus d'un million de vues par mois.
Et qui alimente cette banque d'expérience? Un professionnel qui s'adresse à vous, écoutez, j'ai une expérience, j'ai quelque chose, je vais le mettre en forme en fonction de vos critères, et puis après, on le dépose sur cette banque.
Exactement. Ça peut être un professionnel, ça peut être un groupe de...
Un collectif de travail,
qui a réfléchi sur une thématique, qui a réfléchi sur un outil, et qui souhaite le faire partager au plus grand nombre. Et à ce moment-là, donc, ils sont hébergés dans le cadre de la banque d'expérience.
Quand vous dites des milliers de vues, cela veut dire qu'il y a un réel besoin, quoi.
Le besoin, il y est, c'est clair. Alors, on s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui. Les professionnels du soin aujourd'hui, on le disait tout à l'heure pour les étudiants en dentiste, mais pour l'ensemble des professions aujourd'hui.
Alors, vous avez aussi une autre boîte à outils pédagogique fort intéressante. Alors, c'est la Santé BD. Alors là, vous dites la meilleure façon d'accéder aussi au plus grand nombre, c'est d'utiliser un moyen... qui est la BD, c'est le dessin, c'est les bulles, et c'est assez facile. Alors, comment est venue cette histoire de la BD? Parce que là, vous avez plusieurs bandes dessinées, oui. Vous avez des vidéos, vous avez des dessins, une banque d'images. Donc tout cela doit permettre aux professionnels de mieux appréhender le handicap et ensuite former les personnes qui travaillent avec eux ou qui travaillent ensemble.
Oui. Et de permettre aux professionnels, aux usagers et aux aidants d'être le plus accompagnant possible dans la situation de démarche d'accès aux soins. Donc, des BD, pourquoi? Parce que souvent, avec l'ensemble des handicaps que l'on rencontre, la question de la communication, elle se pose. Et l'image, est vraiment quelque chose qui nous a intéressés dès le départ. Donc, il s'agit de bandes dessinées en accès libre pour comprendre facilement la santé. Ces bandes dessinées, elles sont toutes personnalisables. On peut choisir le personnage principal, un enfant, un adulte, une personne âgée. Elles sont déclinables en poster, en vidéo. Et nous avons plus de 20 000 dessins en libre accès pour permettre à tous de créer ses propres outils de communication. C'est-à-dire que nous avons des modèles tout faits, mais l'intérêt, c'est aussi que les professionnels puissent s'approprier les éléments qu'on leur met à leur disposition pour vraiment faire un petit peu du travail de dentelle et du sur-mesure. C'est-à-dire qu'avec tel public, avec tel handicap, on va pouvoir personnaliser au plus près de manière à ce que ça parle à l'usager, que ça parle aussi aux soignants.
J'ai vu que ce site est gratuit,
oui.
Donc www.santébd.org, donc un professionnel peut aller sur ce site et télécharger les images, etc. Libre d'accès, libre de droit, et on peut mettre ça en œuvre. Alors il y a quelque chose là qui est intéressant dans les documents que vous avez présentés. On peut imaginer une jeune dame ou une dame en situation de handicap qui doit faire une mammographie. Eh bien, à partir de ce moment-là, le professionnel, le radiologue ou autre, eh bien, peut utiliser des dessins pour que, si la personne a des problèmes psychiques, s'il y a des problèmes cognitifs, s'il y a d'autres problèmes liés à sa pathologie ou son handicap, pouvoir accéder, quoi. Alors, donc là, vous rentrez vraiment dans le concret de la situation d'un malade, d'un patient.
C'est exactement ça. Une première consultation, par exemple, comme vous l'avez décrite, d'une mammographie en termes de prévention cancer, c'est déjà pas évident pour...
Évident pour, comment dire, la personne ordinaire.
Donc pour une personne en situation de handicap, qui des fois en plus peut se retrouver au fin fond d'une vallée de l'Ariège ou des Hautes-Pyrénées, ça n'a rien de péjoratif.
Non.
Mais c'est
la géographie.
C'est la géographie et que c'est compliqué, mais ça peut être quelqu'un ici en banlieue à Toulouse qui se retrouve dans les mêmes difficultés par un éloignement, quel qu'il soit, de ses professionnels de santé. L'idée, c'est effectivement, on va décortiquer du premier moment où il va y avoir le premier contact avec le soignant. Comment ça va se passer quand je vais arriver chez le docteur, peut-être qu'il va me demander de me déshabiller. Donc comment on fait, comment je vais accepter cette situation-là. Il va me toucher. Comment on amène cette question-là. Attention, le docteur, il va te toucher parce que on va faire cet examen-là médical. On va décortiquer tout l'examen. Et ça, c'est effectivement...
Et ça, vous le faites avec des bandes dessinées.
Et on le fait avec ces outils-là.
J'imagine que le diagnostic ou annoncé à une personne, restons encore un court moment sur la mammographie, imaginons que la personne en détecte une tumeur, le moment où on doit informer si la personne a des signes cognitifs faibles, annoncer le cancer, annoncer une tumeur, annoncer qu'il va falloir peut-être opérer, qu'il va falloir peut-être faire de la chimio quand il y a des difficultés de compréhension. Vous abordez aussi ces questions-là avec les soignants, parce que là j'imagine, c'est encore une complexité encore plus terrible pour que le patient en situation de handicap, notamment psychique ou autre, appréhende la réalité, quoi. On est parfois en dehors d'une réalité, quoi, là.
Tout à fait.
Pour ces jeunes ou pour ces personnes âgées.
C'est déjà compliqué pour un soignant d'annoncer ce type de diagnostic. Avec une personne en situation de handicap, effectivement, il ne faut pas se contenter de prononcer des mots, parce que ces mots, des fois,
n'ont pas
de sens pour eux, ou vont résonner d'une manière différente, et au final vont être peut-être plus destructeurs qu'autre chose. Donc c'est à partir de ces éléments-là aussi, de ces pictos que nous avons, de ces images que nous avons à disposition, que l'on va pouvoir enrichir la discussion avec la patiente. Et ça, c'est aussi prendre du temps, accepter que le médecin puisse prendre ce temps de la rencontre avec le patient, avec la patiente là en l'occurrence, pour pouvoir aller le plus loin possible. L'idée, c'est aussi que ça permette d'éviter le renoncement aux soins. Ça, c'est primordial. C'est-à-dire que plus on va donner d'éléments, plus on va mettre la personne en confiance, et plus on va expliquer.
Et la famille qui peut accéder plus facilement pour accompagner.
Et souvent, c'est un outil qui est très utilisé par les aidants et les familles, parce que c'est souvent aussi l'outil qui permet d'entrer en communication, d'entrer en lien. Quoi.
J'ai vu que vous avez 75 bandes dessinées.
C'est ça.
Et vous avez également des bandes dessinées qui ont été traduites en langue étrangère. Ça veut dire que vous vous exportez à l'étranger, là, vous vendez votre prestation dans d'autres pays européens.
Voilà, le handicap n'ayant pas de limite.
Il n'y a pas de limite.
Voilà,
oui.
Donc,
alors, c'est traduit en combien de langues?
En anglais, en espagnol, en allemand. Voilà. Je sais, voilà, qu'il y a déjà.
Est-ce que d'autres régions bénéficient également de Coactis ou on pourrait dire, allez, un peu de bonheur pour l'Occitanie, que nous sommes les premiers, nous sommes en avance, on a innové en Occitanie.
On est en avance.
On est en avance.
On est en avance. Alors les pionniers, rendons à César, c'est la région Grand Est. De Strasbourg, qui a déjà deux collègues qui interviennent sur la région Grand Est depuis 18 mois maintenant. La région Occitanie, c'est depuis 7 mois maintenant. Nous avons Bourgogne-Franche-Comté, en même temps que la région Occitanie. Nous avons l'Île-de-France, la Corse, et depuis cette semaine, c'est tout frais, la Nouvelle-Aquitaine. Voilà.
Bande dessinée, de la traduction, également des posters, comme vous m'avez dit, des pictogrammes, des posters. Et alors, les posters s'adressent davantage à tout ce qui concerne la prévention.
Oui.
C'est plutôt pour les établissements, type médico-social, médico-sociaux ou établissements sanitaires.
C'est ça. Et également pour toutes les salles d'attente des cabinets de médecine de ville libérale. Mais voilà. on trouve aussi nos posters, beaucoup, dans les établissements sanitaires, au niveau des salles d'attente, notamment des urgences, puisqu'on sait que le moment d'attente est parfois long et qu'une personne en situation de handicap, si c'est du handicap psychique par exemple, on sait que ces périodes d'attente...
La période d'attente doit être terrible pour ces personnes-là.
Difficile, voilà. Et du coup, d'avoir ces informations avec ces pictogrammes peuvent aider les personnes qui sont chargées de l'accueil à ce moment-là de la personne en situation de handicap.
Santé BD, mais vous avez également des fiches conseils, des modules en e-learning, enseignement à distance, dont c'est Andy Connect. Alors, Andy Connect, quoi ? Un autre service.
C'est ça. Andy Connect, alors celui-là, davantage, je vais dire, à destination des professionnels.
Des professionnels.
Voilà. Avec des fiches très techniques. Ces fiches, elles sont là aussi, c'est un site ressources qui met à disposition gratuitement tous les outils permettant de mieux accueillir un patient en situation de handicap. Nous avons aujourd'hui plus de 60 fiches conseils, avec, comme vous l'avez dit, quelques modules d'e-learning, un annuaire de formation et un accès à une expertise sur mesure pour aider tous les professionnels de santé dans leur pratique quotidienne auprès des patients en situation de handicap. On a des groupes de travail là qui sont composés d'experts scientifiques et d'associations représentatives qui nous aident à coproduire l'ensemble des contenus de ces fiches techniques.
À deux reprises, vous avez abordé la caution scientifique en disant nous avons des experts, c'est scientifique, la science avance et c'est la science qui nous aide à progresser. Quand vous parlez d'un conseil de perfectionnement scientifique ou d'un conseil scientifique, ce sont des professeurs de médecine, des dentistes, des psychiatres, j'imagine, des psychologues, donc très pluridisciplinaires dans la question de la santé et des sciences humaines. C'est comme ça qu'il faut voir ce conseil scientifique.
Exactement, c'est tout à fait ça. Nous avons des professeurs des plus grands hôpitaux de France, on va dire, qui collaborent avec nous, notamment sur la réflexion. Il faut savoir que dès lors qu'on a un thème qui remonte de la base et que nous souhaitons développer, il est présenté à ce comité scientifique qui ensuite va déterminer
qui va déterminer
le nombre de personnes qui va participer autour de la table pour pouvoir...
Et les outils que l'on va mettre en œuvre et les faire valider. Et ensuite, ça redescend de nouveau sur le terrain.
Pour être éprouvé avant d'être validé définitivement.
Avant d'être validé. Ouais. Donc là, il y a vraiment tout un travail, scientifique. On fait appel
éthique.
À la raison et éthique.
Et éthique.
Oui, parce qu'on abordera la question éthique sur le soin. Et je pense que le soin... a une dimension éthique très, très, très importante. Mais avant d'aller plus loin, monsieur Alain Scudellaro, le chargé de mission de Coactis, je vous propose une petite balade avec Julien Clerc.
Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Je ne vis plus, tu sais, je brûle. Et tout ce qui la blesse me tue. Jalouse et belle, tu sais, je veille sur son sommeil. Elle se penche, elle se balance. Vous voyez bien que rien ne manque, ni les silences, ni les serments, ni les rubans fidèles et bleus, ni les querelles des amoureux. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Quand vient le soir, n'allez pas croire qu'on fera l'amour dans le noir. Et dans la chambre, elle rit, elle ment. Et moi je meurs d'amour pour elle. Les autres fois, je pense à elle comme au bon Dieu sans trop y croire. Le fol espoir de l'amour fou. Elle danse, elle chante, et quand elle sort, j'attends, j'attends, je prie sûrement. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Elle se penche, elle se balance. Vous voyez bien que rien ne manque. Elle change sa robe et l'eau des fleurs. Et moi je meurs d'amour pour elle. Les autres fois, je pense à elle comme au bon Dieu sans trop y croire. Les autres fois, je pense à elle comme au bon Dieu sans trop y croire. Le fol espoir de l'amour fou. Elle danse, elle rit, et quand elle sort, j'attends, j'attends, je prie sûrement. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue.
Esprit Occitanie en direct de notre studio Sentinelle d'Humanité, et je suis toujours avec Alain Scudellaro, le chargé de mission handicap de l'association Coactis Santé. Et bien entendu, nous abordons la question du renforcement, renforcer l'accès des soins à toute personne, et notamment aux personnes en situation de handicap, et on a beaucoup de choses à faire. On parlait à l'instant d'un conseil scientifique, d'un conseil de perfectionnement, avec des personnalités reconnues dans leur domaine. Vous avez quelques noms à nous proposer, monsieur Scudellaro ?
Oui, je vais vous donner quelques noms. Juste peut-être pour dire que ces experts scientifiques, ils sont issus des ordres des médecins, des ordres des sages-femmes, des chirurgiens dentistes, par exemple, mais aussi des sociétés savantes, avec lesquelles
l'académie, etc.
On travaille, exactement. Des réseaux de soins spécialisés aussi, ou des institutions. Mais voilà, donc on a plusieurs personnalités. Les nos coprésidents sont le docteur Bruno Paulès, qui est médecin et président administrateur du groupe Polyhandicap France. Nous avons
institution qui fait référence, hein, avec des colloques en région et au niveau national. Il faut le rappeler, hein, tout un travail de grande qualité, hein, et des actes disponibles d'ailleurs.
Hein, aussi.
Pour tous nos auditeurs, Handicap France, voilà, Polyhandicap, des très très beaux rapports.
Et l'autre coprésidente est Marie-Catherine Thaim, qui est vice-présidente de France Asso Santé pour l'APF France Handicap.
D'accord.
Et d'autres noms, mais d'autres voilà. Noms.
Comme... Alors, toutes ces actions que vous menez à travers votre mission sont bien inscrites également dans le plan régional de santé. C'est-à-dire, oui, tout cela est en totale concordance, tout cela est cohérent et va dans le sens de la prévention, en définitive.
Tout à fait, et c'était une demande de l'Agence régionale de santé, effectivement, hein, de promouvoir les outils de Coactis à destination des professionnels de santé, et notamment de tous les nouveaux référents handicap, dont on évoquait tout à l'heure l'existence.
Alors,
depuis 2023.
Alors, le référent handicap, oui, dans les établissements dits de santé, d'abord là, c'est la loi de 2021, et il y a eu un décret en 2027, le 27 décembre, excusez-moi, 27 décembre 2022, et donc à ce jour, les 80, 90 peut-être référents ont été désignés.
On n'est pas loin des 90 référents, c'est-à-dire un gros tiers, il en manque encore deux tiers quand même, hein, pour l'ensemble de la région d'Occitanie, qui sont nommés ou désignés dans chaque établissement de santé. Et aujourd'hui, leur mission est d'aller au-devant des professionnels de santé, mais aussi des usagers et de leurs familles, pour faciliter l'accès aux soins dans tous ces établissements sanitaires.
Faisant un parcours, j'ai un enfant en situation de handicap ou un parent en situation de handicap. Allez, je me présente. Alors, on est à Toulouse. On va citer quelques hôpitaux. Hein. Allez, je me présente à l'hôpital Purpan. Je peux demander à l'entrée le référent handicap.
Tout à fait.
Je peux dire, madame, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez faire appel au référent handicap.
Exactement.
En principe, l'hôpital doit répondre.
L'hôpital doit répondre et le référent handicap est là pour faciliter justement ensuite le parcours et l'accès du patient dans son parcours de soins au CHU de Purpan.
Je vais dans une clinique privée, alors je ne vais pas citer parce que je sais qu'il y a de la concurrence entre les cliniques, mais quand même, des cliniques qui font référence dans notre région, il y en a, et de très grande qualité également, il faut saluer cela. Pareil. Je m'adresse à l'accueil, je dis s'il vous plaît, le référent handicap, mon parent ou mon enfant de 15 ans, de 20 ans, il est handicapé, il est autiste, il est en fauteuil.
Voilà, il a certaines difficultés.
Il est aveugle.
Voilà. Il a des difficultés peut-être à se déshabiller pour pouvoir faire un examen approfondi. Donc moi j'ai besoin qu'on m'accompagne. On a besoin d'un espace peut-être un peu plus intime pour pouvoir l'amener à accepter la consultation. Donc voilà. Donc vous pouvez saisir et demander à ce moment-là au référent handicap de vous accompagner dans ce parcours de soins.
Donc il faut demander aux établissements, vous dites il y a un gros tiers,
hein,
de nommer, que les autres puissent les nommer rapidement et qu'on soit opérationnel à 100%.
C'est le vœu. C'est le vœu et surtout qu'ils puissent obtenir toute la formation. Donc le ministère a prévu un cycle de formation, mais qui pour l'instant n'est pas encore en place, mais devrait voir le jour courant le deuxième semestre 2024 pour pouvoir aussi aider ces référents handicap, parce que c'est une sacrée mission quand même, malgré tout. On n'est jamais assez bien formé, on le disait déjà pour les professionnels du soin, et on se rend compte aussi que dans les référents handicap aujourd'hui, dans les établissements sanitaires, peuvent être d'origine différente. Ça peut être aussi bien une personne secrétaire qu'un soignant, qu'un directeur adjoint d'établissement. Donc, on voit que les profils sont aussi divers et variés et que l'approche, du coup, elle peut en être aussi sensiblement modifiée.
Il y a également des dispositifs de consultation dédiés Et alors là, il y a une cartographie. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décliner la cartographie et les lieux dédiés à ces consultations spécifiques? Alors, la région Occitanie, je rappelle toujours, c'est 13 départements, c'est quand même... vous avez Tarbes, et puis tout d'un coup, vous vous trouvez de l'autre côté, Amandes.
C'est ça.
Il y a quelques kilomètres, il n'y a pas non plus de l'autoroute partout. Alors, quels sont les sites qui fonctionnent aujourd'hui?
Alors, il y a plusieurs sites, effectivement, sur la carte. D'abord, peut-être juste revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une consultation dédiée.
Oui, peut-être.
Hein, avec cet accès à des consultations médicales générales ou spécialisées hein, qui se tiennent dans un établissement de santé ou dans une maison de santé avec un accompagnement spécifique adapté. Donc ça, c'est accessible pour les enfants, pour les adultes, suivant les dispositifs qui sont mis en place, à domicile ou en établissement médico-social, pour lequel le recours aux soins dans des conditions habituelles n'est pas réalisable en raison de la situation de handicap ou parce qu'un échec de soins en milieu ordinaire. Alors, en Occitanie, on va en trouver plusieurs. Vous allez ici sur Toulouse en disco avec le CHU de Toulouse Purpan, qui est une des plus grosses consultations dédiées où on va retrouver toutes les consultations gynécologiques, par exemple. Vous allez avoir sur le centre hospitalier Marchand une consultation dédiée sur tout ce qui va être les troubles psychiques. Donc ça, c'est aussi important. Vous allez en retrouver sur Montpellier avec Andy Consult 34, donc qui est vraiment une consultation dédiée qui fonctionne depuis déjà de nombreuses années, qui est aussi très 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 sollicitée, qui vont parler là aussi de l'ensemble des soins, et on va aller sur des soins aussi bucco-dentaires par exemple. Vous avez une consultation dédiée à Carcassonne, une autre à Perpignan, une au Chiva de Pamiers, une au Chic de Castres-Mazamet dans le Tarn, et enfin une à Cahors.
Ah, à Cahors.
Mais vous voyez bien qu'il y a tout un arc hein, qui part des Hautes-Pyrénées en passant par le Gers, le Tarn-et-Garonne et une partie du Gard où il n'y a pas, pour l'instant, encore de consultation dédiée.
Alors, c'est dû à quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'établissement qui soit prêt, qui ne sont pas encore équipés, qu'on n'a pas le personnel dédié?
C'est ça.
Il peut y avoir plusieurs facteurs, j'imagine.
Il peut y avoir plusieurs facteurs. C'est en fonction aussi des demandes. Et des moyens humains qui sont octroyés.
Mais l'objectif, c'est de quadriller, pourrait-on dire, la région.
C'est ça, effectivement. C'est-à-dire que personne ne doit être en difficulté à n'importe quel point de la région Occitanie, dès lors qu'il aurait besoin d'une consultation spécialisée, par exemple, en gynécologie. Aujourd'hui, on sait qu'il y a pénurie de gynécologues dans de nombreux départements et qu'il est important aujourd'hui d'envoyer les patients sur les consultations dédiées. Et un disco à Toulouse, par exemple, est un très bel endroit de consultation dédiée pour répondre
pour
à tous ces besoins.
Voilà. Vous abordez aussi les problématiques, je dis problématiques des solutions, ce n'est pas une problématique, c'est plutôt une bonne solution. Il y a de la télémédecine et handicap. Alors là, j'imagine, la télémédecine, déjà pour une personne ordinaire, c'est souvent assez complexe, pour une personne handicapée aussi, mais vous développez cela aussi.
Oui.
Avec des outils adaptés également.
Avec des outils pour effectivement préparer à la téléconsultation. Donc c'est pas
préparer le
patient à de la téléconsultation. Vous savez qu'il existe la possibilité dans certaines pharmacies aujourd'hui ou dans certaines maisons de santé de pouvoir faire de la téléconsultation. C'est-à-dire que vous êtes accompagné par un soignant qui va être en lien avec un autre professionnel qui va se situer dans un autre établissement de santé et qui va à ce moment-là à partir des éléments qui vont se faire en direct dans la cabine, donner un diagnostic. Et là aussi, c'est une démarche qui est nouvelle, qui n'est pas facile toujours pour le patient de se retrouver dans cette situation-là. Donc là, nous avons aussi une préparation à cette consultation.
Donc là, vraiment, vous utilisez tous les outils à votre disposition. La technologie ne vous fait pas peur. D'ailleurs, vous avez évoqué en début... de cette rencontre que vous faites, y compris appel à l'intelligence artificielle si c'est nécessaire. Donc c'est un outil, n'ayons pas peur, la technologie est là pour nous soutenir, pour nous aider, et vous utilisez des choses plus classiques, comme on a dit, le dessin, le facile à lire et à comprendre. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut tirer un bilan depuis 2013, entre 12 et 13 de la création? Est-ce qu'on peut tirer un premier bilan des activités que vous avez reprises depuis maintenant? Vous êtes chargé de mission depuis combien de
Sept
temps
mois.
Sept mois. Voilà, donc j'imagine que vous n'avez pas chômé, M. Scudellaro, sur ces... voilà. Alors, est-ce que vous pouvez tirer un premier bilan?
Alors, un premier bilan, alors, sur
un
sur
premier bilan personnel et
personnel,
un bilan...
Personnel, ouais.
Voilà, d'abord, un premier
alors,
bilan personnel.
Un premier bilan personnel, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Aujourd'hui, ça monte en flèche. Les utilisateurs des outils Coactis sont de plus en plus nombreux. Nous avons pour ça, à chaque fois que vous cliquez et que vous téléchargez un des documents pour lequel vous êtes intéressé, ben ça vient abonder dans un compteur qui voilà.
Donc vous avez la traçabilité.
On a une traçabilité voilà de tous les téléchargements qui se font sur nos outils. On le fait région par région, donc ce qui est très 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 intéressant parce que ça nous permet aussi de corroborer avec le baromètre Handifaction, qui lui aussi donne une déclinaison régionale et départementale des difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap dans l'accès aux soins. Donc du coup, on peut avoir aussi des réponses vraiment ciblées au plus près de là où nous avons les besoins.
Voilà. Et donc, vous avez parlé de Handifaction, hein, donc là vous faites de un baromètre, donc un questionnaire. Vous allez au plus près de vos clients, pourrait-on dire, hein. C'est pas que, mais usagers aussi.
Oui.
Et puis ce questionnaire remonte, vous le traitez. Alors combien de questionnaires vous envoyez dans la nature? Quel est le retour? Est-ce que ce baromètre, c'est simplement vous dire, est-ce que ce baromètre est fiable, quoi? Quand vous annoncez des chiffres, est-ce que scientifiquement il tient la route, comme on dirait dans notre langage?
Oui. Il tient la route parce qu'effectivement, il a été développé par un didactique en lien avec l'assurance maladie. Ce baromètre, donc, il est à destination des usagers. Hein. Il n'est pas voilà. À destination des professionnels, mais bien des
c'est bien
des
l'usager
usagers.
Qui répond. On m'a
c'est
pris
l'usager
en charge,
qui répond.
Voilà.
Voilà.
Ou
on
la famille.
Famille
la famille qui est derrière,
droit.
Bien
voilà.
Entendu. D'accord.
Tout à fait. La volonté de ce baromètre, c'est vraiment de mieux caractériser et d'objectiver toutes les problématiques d'accès aux soins des personnes qui vivent avec un handicap. Et l'objectif est vraiment de développer ensuite les actions ciblées et adaptées sur les différents territoires. Donc pour nous, et pour moi en particulier, Handifaction est vraiment l'outil nécessaire. Exemple, nous pouvons évaluer que nous avons 22% de personnes vivant avec un handicap qui n'ont pas encore de médecin traitant en région Occitanie. Ça va se décliner en 18% dans le Gers, peut-être, et en 24% dans la Haute-Garonne.
Donc vous avez une connaissance précise, département par département.
Exactement. Voilà. Et là, ça permet, justement, ensuite, dans les actions ciblées, d'activer tel ou tel levier. Ça va permettre, on va aller voir peut-être davantage les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles, ou dans le cadre des rencontres avec l'ARS sur la médecine de ville, de cibler aussi des interventions pour pouvoir motiver les professionnels de ville à accueillir et à prendre des personnes en situation de handicap en référence.
Ce baromètre, on peut répondre à ces questions directement sur Internet.
Oui.
Et vous envoyez également des envois, comme on dit, papier, c'est-à-dire un questionnaire, les gens répondent,
c'est
etc.
Ça.
Le numérique, dans la santé, ça se propage
et
correctement.
Et ça marche très bien.
Et ça marche bien, oui.
Oui, parce qu'effectivement...
Il n'y a pas trop de résistance, pourrait-on dire.
Non, parce que l'outil aussi est créé de manière à ce qu'il soit facile à lire et à comprendre. Donc il est vraiment, il se met sur une tablette, il se met sur un smartphone, il se met sur l'ordinateur, il s'adapte vraiment en plus aux personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment un outil qui a été conçu et qui aujourd'hui est le seul outil de référence reconnu par l'assurance maladie. Donc ça a quand même son importance.
Tout cela respecte les normes européennes
de RGPD.
RGPD, les données personnelles, etc. Sauf s'il y avait une attaque
ou des hackers qui viennent pomper
toutes les informations. Non, mais a priori, peut-on dire qu'il y a tout ce qu'il faut, les pare-feux nécessaires pour protéger les usagers.
C'est un bel outil d'expression, hein, libre et direct, hein, parce que l'usager, hormis des questions cibles qui sont bien fléchées, dans lesquelles il faut répondre, il a aussi la possibilité de pouvoir donner son avis, son point de vue. On a pour habitude de dire que Handifaction, c'est un outil de démocratie sanitaire. Donc voilà, aujourd'hui c'est un outil vraiment à la disposition du public pour vraiment s'approprier sa propre santé.
Vous nous dites dans vos documents, de la charte Romain Jacob au questionnaire Handifaction, donc au questionnaire oui, handicap et la satisfaction de cette question. La charte Romain Jacob, qui est un véritable guide éthique, est-ce qu'il vous arrive également de former le personnel, les personnels du soin, aux questions éthiques? Est-ce que vous intervenez aussi régulièrement sur cela, ou c'est une autre équipe qui fait cela, ou vous faites appel à d'autres spécialistes qui vous accompagnent à partir de Coactis? Parce que là, je vous pose cette question parce que dans le cadre de l'évaluation de la Haute Autorité de la Santé, vous comprendrez aisément que l'une des premières thématiques, c'est la bientraitance, c'est l'éthique. Et comment on met cela en place? Alors vous abordez cela aussi pour aider les équipes?
On l'aborde, effectivement. Et c'était l'objet de notre dernière plénière qui s'est tenue à Paris il y a 15 jours, donc sur la question de l'éthique, justement. Donc pour bien montrer que c'est quand même une question dont on ne peut pas faire l'impasse à n'importe quel niveau qu'on se situe. Alors effectivement, dans le cadre de ma mission, j'ai pas le temps de pouvoir former et développer, aller plus dans le détail avec l'ensemble des professionnels que je suis amené à rencontrer. Par contre, je les renvoie sur nos réunions de réflexion que nous avons.
Ou d'autres professionnels, quoi.
Ou d'autres professionnels sont intervenus, dont notamment M. Cobo de l'Université catholique de Lille, qui est intervenu longuement il y a 15 jours sur cette question-là, avec le professeur Aubry également.
Est-ce que vous faites appel au comité national d'éthique qui se trouve également en région, dont l'équipe et le professeur Clanet participent activement, avec également des rencontres régulière, vous parlez, pourrait-on dire?
Oui.
Est-ce que les équipes se parlent?
Les équipes se parlent, je vous garantis que les personnes du siège parisien sont à l'écoute régulière du comité national d'éthique, parce qu'effectivement, et on le sait, toutes les questions liées demain à la fin de vie aussi vont traverser et vont nous questionner et vont questionner les professionnels et les usagers porteurs de handicap.
Très difficile, j'aborderai pas cette question parce qu'elle est problématique, mais on en dira peut-être un mot parce que aborder, imaginons une personne en situation de handicap, la fin de vie. Nous attendons tous cette loi sur la question d'euthanasie ou pas. Est-ce que vous avez des professionnels qui vous ont déjà interrogé en disant une personne en situation de handicap et qui est en fin de vie, est-ce qu'il y a aussi là une spécificité? Est-ce que vous savez répondre? Est-ce que c'est un chantier que vous avez ouvert ou pas au sein de Coactis?
Alors, c'est un chantier qui est effectivement ouvert parce que c'est une question d'actualité. Hein, et donc, pour Coactis, c'est d'être au plus près de toute façon de l'actualité. Donc, on ne va pas se voiler la face. C'est un sujet qui est très, très important, qui va demander aussi et de beaucoup de d'adaptation, hein, on va dire, au discours qui va être porté par par le politique dans les prochaines semaines, et nous verrons, et nous serons répondre présents de toute façon à tous ces moments de partage et de travail.
Avec la loi Leonetti pour le moment.
Pour l'instant, on reste dans le cadre
là, voilà. Et vous accompagnez ce mouvement sans difficulté, mais j'imagine. Qu'une personne a des problèmes de déficience cognitive, ce qui lui arrive, la question de la douleur, etc. J'ai pareil souvenance que dans l'équipe de France Polyhandicap, un des psychologues référents que nous connaissons et qui avait pris la parole ici à Esprit Occitanie, dans l'émission Sentinelle d'Humanité, Michel Belot avait inventé, que vous connaissez également, oui. Michel Belot, qui avait inventé une échelle adapté pour une personne en situation de handicap pour pouvoir identifier la douleur et l'intensité de la douleur. Donc il y avait bien une adaptation au plus près de ces personnes qui pouvaient donc dire oui, j'ai mal, j'ai très 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 mal, vraiment je souffre. Donc des outils, là on rentre dans du concret.
Tout à fait, et pour en avoir parlé avec lui il n'y a pas très longtemps lors d'un colloque auquel il m'avait demandé de participer à Carcassonne sur le polyhandicap, effectivement sur toutes ces questions de la douleur, c'est vraiment là aussi un sujet d'actualité.
Un sujet d'actualité,
et oui. Qu'il faut aborder. Et qu'il faut aborder.
Parce qu'il faut soulager les personnes.
On ne peut pas rester avec de la douleur.
On ne peut pas rester avec de la douleur. Là. C'est une question qui malheureusement avait été évacuée par la... pourrait-on dire par les académies, hein, par la médecine, disant non, on va soigner la douleur. Non, la douleur, il faut le traiter. On ne s'appartient plus quand il y a de la douleur. On perd toute sa dignité quand on souffre. Et donc, c'est une question fondamentale.
Exactement. Et on l'a vu avec d'autres intervenants aussi, où par exemple, quand vous avez une jeune qui a des difficultés à s'exprimer et qui, par exemple, a plusieurs caries ou a une dents de sagesse qui pousse, et bien sûr qu'il ne va pas vous l'exprimer, sauf qu'on va pouvoir peut-être passer à côté de choses et traduire sa douleur par liée à la maladie, par exemple, ou liée à la pathologie d'origine. Sauf que simplement, une douleur dentaire, et on sait ce que c'est qu'une douleur dentaire,
c'est terrible,
et même voilà, peut avoir une incidence primordiale dans les attitudes et dans le comportement de la personne.
Une colique néphrétique, c'est terrible. Etc. Donc voilà. On voit bien que ces personnes-là, en situation de handicap, les personnes, allez, parlons le langage de M. Jacob, les personnes vivant avec ce handicap, ça doit être doublement terrible pour eux. Je vous propose de se promener du côté des Caraïbes avec une autre promenade musicale.
Deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia de tu amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor, recuerdo tu calor. Desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar sueño en la eternidad. Con cada luna vendrás, con la marea te irás en un caracol. Thank you.
soñados en un sueño angelical. Si llegó de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin ti en la eternidad. Lejos nos puedan separar, jamás pudieran olvidar tu risa celestial, tus besos, tu calor. La bella María de mi amor. Si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser.
Esprit Occitanie Sentinelle d'Humanité, toujours avec Alain Scudellaro, chargé de mission handicap auprès de l'association Coactis Santé. On parlait de la démocratie sanitaire à travers ce questionnaire et ce baromètre qui s'adresse davantage aux usagers. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose auprès d'un baromètre pour les professionnels qui utilisent vos outils ou c'est quelque chose qui sera en chantier dans les années qui viennent ?
Je pense que ce sera un chantier là dans les mois qui vont arriver, parce qu'effectivement on se rend compte qu'on a de plus en plus d'utilisateurs, et donc il est important nous aussi de savoir.
C'est le service client, hein. Je reviendrai à cette question du service client. Est-ce que vos services sont à la hauteur de ce que demandent les professionnels et les soignants?
Voilà. Aujourd'hui, par exemple, on a des premiers retours où, par exemple, pour faciliter le parcours soin, à 98%, les professionnels disent que ça leur permet de gagner du temps. Donc, c'est quand
donc
même.
Donc, on voit bien qu'il y a de la satisfaction.
Il y a de la satisfaction.
Et vous répondez aux besoins.
Et on répond effectivement à des besoins. 96% des professionnels nous disent que ça leur permet de gagner en sérénité. Donc ça c'est intéressant. Donc du coup, je me dis que effectivement on doit pouvoir monter un outil qui nous permet d'affiner pour aller encore au plus près des attentes des professionnels de santé.
Question plus personnelle, monsieur Scudellaro, vous avez été directeur d'établissement, vous connaissez bien le social et le médico-social. Aujourd'hui, vous menez votre carrière avec d'autres chantiers, donc cette mission. Est-ce que le fait de passer par une direction, par la gestion d'un établissement, vous aide pour mieux peut-être appréhender, rentrer en contact avec les équipes?
Oui.
Vous parlez la même langue, est-ce que vous pourriez dire ça?
Je crois que ça aide, effectivement. Et ce qui me plaisait dans ce nouveau challenge, parce que, comme vous l'avez dit, ben voilà, j'ai eu le grand plaisir de travailler pendant 30 ans dans le médico-social, pour terminer dans un poste de direction d'un très bel établissement avec multiservices. D'être au contact de groupes d'enfants polyhandicapés, de familles vivant avec du polyhandicap, d'être avec un service d'accueil de jour pour des jeunes autistes, de pouvoir avoir différentes populations à accompagner, eh bien effectivement, je trouve que on peut se rendre compte de toutes les difficultés que peuvent rencontrer et les usagers et les familles, mais aussi les professionnels, pour accompagner dans le parcours de soins. Et même dans un établissement, on sait que ce n'est pas gagné. Aujourd'hui, il y a de la pénurie de professionnels de santé dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, il faut aussi ne pas négliger tous ces jeunes qui sont accueillis, jeunes et moins jeunes, hein, qui sont accueillis dans nos établissements et services.
7-8 mois à Coactis, vous dites, allez, pour faire le tour, pour aller loin, sans dévoiler, pourrait-on dire, le plan de carrière, je ne sais pas si vous en avez un, vous dites là, pour faire le tour, pour emmener, travailler avec les équipes, je me donne 2 ou 3 ans pour être opérationnel au meilleur niveau, c'est ça?
C'est ça, la mission, elle est de 36 mois, donc voilà, il y en a déjà 7 de passés, donc allez, on va se dire qu'il en reste, allez, dans 2 ans, normalement, tout devrait être
et toujours,
en route.
Et toujours toujours avec le même enthousiasme, hein, monsieur Scudellaro.
Toujours, effectivement, mais je pense que voilà, ça fait partie aussi de la motivation. Si on n'y croit pas, ou si on n'est pas motivé, si on n'est pas porté par cette envie-là, je ne pense pas qu'on puisse s'engager dans les métiers que nous avons faits.
Bon, bah, écoutez, merci beaucoup, monsieur Scudellaro. Coactis, santé. Vous trouverez bien entendu sur le site l'ensemble donc des outils à disposition. Ne négligez pas, chers amis, sentinelles d'humanité, Esprit Occitanie, de vérifier, d'aller chercher les fiches, les BD, également sur YouTube. Nous avons oublié, vous avez également des vidéos à disposition.
Toutes les vidéos sont
Tout cela est disponible pour les professionnels. Merci et à très bientôt. Toujours sentinelle d'humanité, monsieur Scudellaro, à très bientôt.
Merci
Bonne
beaucoup.
Continuation.
Merci à vous, à bientôt.